Bonjour Dominique.
Bonjour William, bonjour JB.
Je sais pas s'il y a parfois...
Ami du bout des ondes, bonjour.
Je sais pas si parfois il y a des coïncidences, mais là on était à Orly et justement on va prendre l'avion.
On prend l'avion, là on est en zone d'embarquement et
voilà.
Direction Pékin, on va voir un film chinois.
Ah bah ça y est, vous parlez mandarin enfin.
Complètement, là, parfaitement. Faut pas mettre à l'épreuve. Hein. Le film de cette semaine, à l'actualité des cramés de la bobine, c'est Coming Home, un film de Zhuang Yimou. Alors c'est un mélodrame avec une forte puissance émotionnelle, très très forte puissance émotionnelle. C'est un film presque intimiste qui va développer environ pendant 1h50. Alors on a un intellectuel d'opposition, un dissident donc, hein, ce qui s'appelle Lu Yangxi, qui a été dénoncé lors de la révolution culturelle et après 20 ans de camp de travail et une tentative d'évasion, parce que c'est quand même un vrai...
Il y en a qui réussissent quand même.
Mais lui, il va c'est pas bien loin quand il veut s'échapper, ouais, on le récupère, et c'est terrible ensuite. Il retrouve enfin Pékin et sa femme, Waming. Et là, sa joie est de très très courte durée. Devenu amnésique, sa femme ne le reconnaît pas du tout. Elle le prend pas pour le mari. Et c'est épouvantable. Et sa fille, par contre, elle est complètement endoctrinée, au dernier stade, par les préceptes du petit livre rouge. Alors ce monsieur se retrouve dans une famille où il a du mal à retrouver ses empreintes. Hein, et puis en plus, il semble... Pour sa fille, il le reconnaît comme son père probablement, c'est sûr, mais sa femme, non, là vraiment, c'est pas le mari. Hein, donc ça, c'est assez dur. Alors on va se mettre dans l'ambiance du film et on va tout de suite écouter un extrait de la bande sonore.
下个月就要订吴清华了，领导马上决定主演名单，大家都要努力争取。
妈，会让我跳吴清华吗？你能看出来，其实丹丹跳得更好。那也没用，谁让他爸畏罪潜逃呢？他跟我没关系，我服从组织决定。发现逃犯的行踪，立即报告，配合组织调查抓捕，站稳立场，划清界限。听清了吗？
妈，你可不能去见他，他是接力敌人。我明天去火车站接他。
不用接，这不已经来了吗？他不是。
Voilà, c'était donc Coming Home. Pour la traduction, voyez avec Dominique.
Je pourrais pas faire une traduction chinoise, hein. Mais en français, ça pourrait être retour à la maison, quelque chose comme ça. Alors, le réalisateur Zhuang Yimou a toujours plus ou moins alterné des sentiments contradictoires à l'égard du régime chinois. Alors, il a une histoire, lui, déjà, c'est qu'il a été blâmé par les autorités pour ne pas avoir respecté la politique de l'enfant unique. Il avait simplement caché qu'il avait 7 enfants.
Bah, ils en sont revenus un peu là, en ce moment-là, je crois.
Alors, cette histoire d'un prisonnier politique cherchant la réhabilitation, non pas sa réputation, mais l'amour de sa femme, a tout d'une entreprise de réconciliation. En fait, on sent bien qu'il a une histoire avec ce régime et qu'il veut montrer qu'il est quand même plutôt dans le bon sens. Hein, il est,
bon,
hein, c'est un peu ça.
Ça sert les 20 ans.
Alors... Donc, il va faire cette histoire d'amour, et c'est notamment à travers le rôle de Waini que le réalisateur évoque les ravages de la révolution culturelle sur le peuple chinois. Mais il faut bien savoir quand même qu'en Chine, la censure est très tatillonne à ce propos. Donc, dans son film, le poids de l'État et son totalitarisme n'est à lire qu'entre les lignes, c'est pas évoqué complètement. Et d'ailleurs, bon, c'est quand même une métaphore politique, hein, ça c'est sûr.
C'est vrai.
Alors, difficile, moi je pense qu'il est quand même assez compliqué de ne pas se laisser porter par cette épopée amoureuse, par la détermination et l'abnégation l'implication de cet homme qui veut retrouver sa femme et sa fille, reprendre sa place dans sa famille. Et d'ailleurs, le public chinois n'y s'est pas trompé. C'est un des plus gros succès de l'année en 2014.
Ils ont fait quoi, 500 millions d'entrées, non?
Alors moi, je peux vous donner, mon cher William, le nombre de yens générés par les entrées chinoises dans, d'accord, les salles, et vous allez faire la conversion.
Bien sûr.
Il y en a pour 300 millions. Et il faut savoir que 1 euro, ça vaut 1,7 yen.
Bon, allez, on va dire 200 et quelques. Hein.
Ouais, voilà.
D'accord.
Alors,
200, c'est quoi? C'est un sixième de la population?
Oui, enfin, il y a quand même une prolifération de salles de cinéma en Chine. En plus de ça, on le sait, on avait reçu un invité qui nous a expliqué que la plupart des films chinois étaient sous le manteau et qu'on les voyait par les DVD, des choses comme ça. Et bon, c'était pas un cinéma extrêmement ouvert, mais qui génère beaucoup aujourd'hui d'œuvres. Donc ce film, il est très très bien réalisé, il est hyper esthétique, il est sobre, il est captivant, et surtout, c'est une grande histoire d'amour. Je crois qu'il faut le voir à travers ça, c'est une histoire d'amour. Et alors...
Moi, je dois dire, c'est ce qui résume très souvent, parfois, le cinéma chinois, quand même, hein, ces histoires, parfois, à l'eau de rose, hein, c'est le cas de le dire.
Ouais, mais là c'est violent parce qu'il y a l'éloignement, il y a la maladie qui s'installe, et puis ce metteur en scène a quand même des effets de lumière assez exceptionnels. Les acteurs sont fabuleux. Alors on sait que l'actrice qui joue le rôle principal, c'est Kong Li. Kong Li, bon, c'est une très très grande actrice chinoise qui a fait aussi carrière aux États-Unis. Et elle disait...
Elle était présidente d'ailleurs une fois du Festival de Cannes.
Elle est venue à Cannes, bien sûr, et elle disait notamment que aux États-Unis, elle voulait avoir un rôle qui ressemblait à ce qu'elle avait envie de faire et ce qu'elle était capable de faire. Et elle a été plutôt déçue des films qu'elle tournait là-bas parce que ça correspondait pas à ce qu'elle était capable de faire. Elle estime qu'elle était un peu sous-utilisée aux États-Unis, donc elle est revenue en Chine. C'est son premier nouveau film avec son metteur à scène Zhuang Yimou. Elle a eu une histoire avec lui, donc c'est quand même un prolongement et un renouveau. Alors ce film, nous l'avons on propose à l'Alticiné de Montargis, c'est demain après-midi. Alors, ce matin, j'écoutais la météo sur C2L et j'entendais rafales, grésilles,
40 à 50 km/h
intense. Vent, donc justement, je trouvais que une fin de journée à 18h à l'Alticiné de Montargis, c'était un bon chemin à prendre. Voilà, on le retrouvera, ce film, évidemment, lundi début d'après-midi, 13h30, et puis mardi soir à 20h30, toujours à l'Alticiné, on a la soirée débat qui sera animée par Eliane Bido à 20h30, donc à l'Alticiné. Mon cher William, on va faire un petit entracte, un entracte musical.
Ça marche.
C'est une histoire d'amour, hein, qu'on vient d'évoquer dans Coming Home. Alors on va écouter une version de Que je t'aime de Camille.
Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Tu deviens chien et qu'elle appelle du brise enfin tes liens. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui.
La voix de Johnny, c'est assez étonnant.
Non, elle s'appelle Camille.
D'accord, comme quoi.
Alors, on continue avec les Cramés de la Bobine et la programmation, puisque c'est lundi 16 février, eh bien, c'est le documentaire du mois. On a choisi un film qui s'appelle Iranien, de Mehran Tamadon. Et alors, c'est avec le concours des Amis du Monde Diplomatique. Ça, c'est régulièrement dans la saison. On a des rencontres, on fait des projections communes, des organisations communes. Donc, c'est ce lundi 16 à 20h30. Et à cet effet, nous avons le grand plaisir de recevoir dans ce studio Sylvie Bréban, qui est rédacteur en chef à TV5 Monde et qui va notamment présenter ce film iranien. Eh bien, Sylvie, bonjour Sylvie.
Bonjour Sylvie.
Bonjour
Sylvie. Alors, effectivement, on va présenter ce film iranien de ce réalisateur exilé en France, Mehran Tamadon. Peut-être avant de parler de ce film proprement dit, peut-être qu'on peut donner à nos auditeurs deux, trois petites infos sur justement ce cinéma iranien. J'ai découvert en préparant cette petite interview que ce cinéma est né en 1900, donc pas très loin après les Frères Lumière, et c'est les Français qui ont permis à ce qu'on puisse introduire le cinéma dans ce pays.
Oui, oui. C'est... Bon, l'Iran, c'est un grand pays. Hein. C'est un vrai pays depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc, avec une grande histoire politique, une grande histoire culturelle. Donc, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un grand cinéma aussi en Iran. Juste, je voudrais dire, puisque on en a parlé là, de l'association Amis du Monde Diplomatique et les Cramés, c'est la troisième fois qu'on fait ça ensemble. Et franchement, je trouve que ça marche très très bien. On avait fait pour les Juifs d'Égypte.
Un très beau succès.
Voilà, on avait fait aussi pour Les Jours Heureux, un film sur le Conseil National de la Résistance. Et puis maintenant, iranien. Et en plus, iranien, bon, c'est vrai que j'allais dire, ça tombe malheureusement très bien ce film, avec ce qui s'est passé au début du mois de janvier en France, avec les attentats, avec toutes les interrogations qui ont suivi, etc. Et c'est vrai aussi que donc, c'est un film iranien. Il y a aussi un des aspects du cinéma iranien, puisqu'on parlait de ce grand cinéma, c'est aussi, il y a aussi une tradition du documentaire. Et donc, Mehran Tamadon s'inscrit dans cette tradition du documentaire. Parce que aussi le documentaire permet de parler de choses dont on ne peut pas forcément parler autrement. Et il y a en ce moment à la Berlinale un film iranien qui est très remarqué, Taxi de Jafar Panahi, qui lui est en Iran et qui ne peut pas sortir d'Iran et qui a filmé pris un taxi, qui a fait le chauffeur de taxi et qui a filmé plein de scènes dans son taxi. Et apparemment, c'est un film aussi extraordinaire qui dit beaucoup de choses de la société iranienne. Une société, d'après ce que je sais, parce que je ne suis pas une spécialiste, et d'ailleurs, je voudrais dire que lundi soir, on aura une très grande spécialiste et de l'Iran et du cinéma et du cinéma iranien, qui s'appelle Sabrina Mervin, et qui est à la fois, alors c'est drôle parce qu'on parlera de Mehran un peu plus après, mais qui a deux casquettes, on va dire, et c'est pareil pour Sabrina, elle est à la fois sociologue, chercheure au CNRS, spécialiste de l'Iran, du chiisme et du cinéma iranien, mais elle est aussi réalisatrice, cinéaste. Donc voilà, ça, c'est, je pense que, et c'est, je crois que c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel.
C'est la bonne personne qu'il faut peut-être voilà. Pour avoir c'est un décryptage complet. Alors pour revenir justement, Sylvie, sur ce cinéma iranien, on ne va pas aborder effectivement plus d'un siècle de cinéma. C'est vrai qu'il y a eu des périodes particulières, hein, l'avant 79 et l'après 79. Le cinéma justement a toujours été un vecteur du fait de la situation politique et de la situation de la presse dans ce pays, a été un vecteur justement de pouvoir montrer la réalité parfois sociale, politique, culturelle, religieuse de ce pays.
Mais paradoxalement, il me semble qu'il y a eu un cinéma plus créatif après 79 qu'avant, dans la pire période
de censure du
régime du Shah d'Iran. Hein, parce que bon, on l'a oublié, mais bon, il y avait quand même ce régime extrêmement sévère avec torture, prison.
Une police violente.
Une police absolument terrifiante. Et donc, je crois que effectivement, on a des vues parfois, et c'est le grand mérite de ce film iranien, c'est de montrer qu'on n'est pas tout seul et dans le monde, qu'il y a d'autres personnes et d'autres façons de voir, et que parfois ces façons de voir sont contradictoires, qu'elles ne sont pas comme un monolithe. Et il me semble que l'Iran, c'est justement pas un monolithe, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cet aspect très ultra conservateur.
Autarcique par moment.
Et puis, bon, ce poids du religieux, etc., etc. Mais il y a aussi, ça a été un des pays, l'un des premiers pays les plus connectés au monde, hein, avec des universités où on pouvait, il y avait le tout numérique pratiquement. Donc, c'est un des pays musulmans, entre guillemets, parce que c'est un peu toujours embêtant de qualifier les pays comme ça, mais où le taux d'éducation des filles, y compris à l'université, est l'un des plus élevés au monde. Donc voilà, il y a beaucoup de contradictions dans ce film, dans ce pays, et j'ai fait de lapsus parce que toutes ces contradictions sont à l'œuvre dans ce film aussi, et je dois dire que franchement, c'est un super beau film, sur le plan cinématographique, mais aussi sur le contenu, et qu'il dure 1h30, et effectivement les gens parlent, mais alors c'est pas du tout ennuyeux, on rit même beaucoup. Voilà, c'est alors, bon, peut-être on va en parler,
on
mais
va en parler bien sûr. Alors justement, pour revenir à cette période bon, on va pas relever un siècle de cinéma, curieusement c'est justement parce qu'il y a eu la censure dans le pays que ce cinéma a réussi à avoir une portée internationale, puisqu'à travers tous ces acteurs réalisateurs qui sont exilés un peu partout dans le monde, et notamment pour ce qui concerne certains, et on va le voir avec ce réalisateur en France, c'est ce qui a permis aussi de donner une portée internationale au film iranien. Ça aussi une des réalités de ce cinéma.
Oui, c'est sûr. Et en plus, c'est-à-dire que ce qui me semble aussi intéressant dans le cinéma iranien, et je dirais il y a un peu des ressemblances aussi avec le cinéma russe, c'est que les réalisateurs sont et dehors et dedans. C'est-à-dire que la plupart reviennent, font des allers-retours entre le pays. Oui. Bah, c'est le cas de Mehran Tamadon, justement. Et donc, ça donne aussi une coloration, une particularité à ce cinéma.
Mais ça veut dire aussi que la censure va bloquer un peu la créativité. Tout n'est pas possible.
Non, tout n'est pas possible.
Et dans le même temps, tout est possible aussi.
Voilà,
c'est contradictoire.
Bon, on en avait parlé au moment de Léviathan. Je vous signale qu'en ce moment, le Léviathan, il passe au cinéma en Russie. Hein, donc,
ce qui n'était pas le cas quand il est passé chez
nous.
Non,
mais ils avaient dit qu'ils attendaient la période des Oscars pour le passer. Bon, mais voilà, c'est tous ces paradoxes qu'il faut voir aussi. Et voilà, c'est pas des monolithes, c'est pas la Corée du Nord. Hein,
justement, ça tombe bien, puisque ce réalisateur Mehran Tamadon, il est né en 72 en Iran, il est venu en France en 84, et puis il est retourné en Iran en l'an 2000. Et bien justement, on pourrait considérer que le propos qu'on vient d'avoir là, c'est justement ce qui rapproche ce réalisateur, puisqu'il était à l'origine architecte, et c'est peut-être parce qu'il y a eu une situation politique dans laquelle il s'est retrouvé que peut-être il a voulu pouvoir prolonger ou expliquer peut-être la situation parfois dans son pays.
Alors, je pense que là, ce qui fait sa particularité, c'est que quand il est venu en France, il était enfant encore. Hein, il n'était pas.
Oui, parce que 72, il avait 12 ans.
Voilà. Donc, il est le fils de militants communistes. De militants communistes sous le Shah d'Iran. Hein, donc, c'était ceux qui étaient les plus réprimés à l'époque. Hein. Et puis, il y a eu 79. Alors, je ne sais pas si les parents sont manifestement restés, puisqu'il est, il est venu en France en 1984, et la mère est toujours là-bas. On entend une conversation au téléphone avec la mère, avec sa mère dans le film. Et donc, il y avait un paradoxe aussi, on ne se souvient pas, mais en 1979, moi j'étais à l'université, je fréquentais des groupes un petit peu gauchistes, on va dire, et on va lire trop fort. Et bon, enfin, c'est pas, j'en ai pas du tout honte. Et donc, il y avait, les Iraniens étaient très très présents dans ces sphères. Oui. Et la plupart d'entre eux sont retournés en 1979 en Iran, parce que pour eux, c'était un mouvement révolutionnaire. Et je pense que c'était effectivement le cas. Il y a eu une révolution.
Ils y croyaient.
Et évidemment, après, il y a eu la chape de plomb qui est tombée. Et donc, il faut voir que Mehran, il est donc d'une famille communiste où on aime la dialectique, hein, on aime discuter. Je pense que il a beaucoup, enfin, c'est d'une famille d'intellectuels,
athée,
de bourgeois intellectuels aussi, hein, parce que le film est tourné dans une magnifique maison en dehors de Téhéran, qui est une maison de vacances, on va dire. Et donc, je pense que c'est pas par hasard si il a toujours eu ce goût d'aller vers ceux qui ne pensent pas comme lui. Et il l'avait fait avec Basiji, qui est un documentaire aussi déjà sur ces milices qui soutiennent, des milices populaires, hein, qui sont terribles et qui soutiennent les Mollahs, le régime des Mollahs. Et là, il le fait, lui, l'athée, en allant discuter avec des dignitaires religieux. Et bon, c'est extraordinairement savoureux, hein, cette rencontre. Extraordinairement autour de la question combien, comme on entend combien parler en ce moment, du vivre ensemble ou ce que les Canadiens appellent les accommodements raisonnables, on va dire.
Oui, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant pour poursuivre, pour prolonger ce que dit Sylvie, il dit quand on vit en Iran, on n'a aucune idée de ce que pensent les gens qui n'évoluent pas dans notre milieu. Et c'est effectivement cette recherche, cette quête d'aller se confronter à l'autre et d'essayer de comprendre le monde dans lequel il est à travers une situation d'une ville, d'un pays et des réalités parfois religieuses, politiques, culturelles ou autres.
Oui, oui. Et bon, ce qui est absolument extraordinaire dans ce film, c'est que évidemment, ils sont pas du tout d'accord, mais donc ils essayent de voir jusqu'où quelles sont les concessions, les uns et les autres, l'un et les autres. Quelles sont les concessions ils sont prêts à faire pour pouvoir vivre ensemble. Mais alors, on touche à des sujets, des sujets très libres. Hein. Moi, je sais pas, je me disais, est-ce que je pouvais pas imaginer qu'un jour, j'entendrais un mollah parler d'avortement de façon très libre, comme ça, voilà. Et chercher, est-ce qu'on a le droit d'avorter ou pas sur Internet par rapport aux fatwas qui sont édictés, puisque les fatwas, ce sont des règles, ce ne sont mais pas oui. des anathèmes comme on a trop souvent tendance à le croire.
Mais je trouve que déjà la première performance de ce film, c'est de réussir à réunir quatre mollahs de sensibilités différentes, les mettre deux jours dans une villa et changer librement ça.
Oui, mais alors bon, réunir, en plus, il le raconte hein, au début du film, il a mis très longtemps à pouvoir tourner ce film, à trouver des personnalités qui accepteraient comme ça de discuter avec lui. Et bon, c'est extraordinaire parce que ces discussions ne se font pas du tout dans la tension. tension, hein. Il y a pas d'agressivité. Alors ça, c'est extraordinaire. Bon, faut dire que évidemment, ils mangent bien. Voilà, ils sont bien reçus. Mais mais alors évidemment, il faut pas oublier. Il y a un mais. Hein, il faut pas oublier derrière parce que les femmes sont là, mais elles participent pas à la discussion. On les voit pas. Bon, et d'ailleurs, beaucoup de choses, beaucoup des discussions se tournent autour de la place des femmes dans la société. C'est vraiment très très intéressant sur la question de qu'est-ce que c'est que la dictature. Alors lui, évidemment, pour lui, la dictature, c'est celle de ceux qu'il a en face de lui. Mais pour les autres,
c'est lui.
Ils appellent, ils disent ta laïcité, c'est pour nous une sorte de dictature. Ouais, bah c'est bon, voilà. Donc évidemment, à chacun sa vérité, hein, comme disait l'autre.
Non, mais comme quoi, ce qu'on disait en préambule, on est dans une période qui c'est complètement d'actualité. Hein. C'est le rapport aux croyants et non-croyants, à ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'ont pas le pouvoir. Toute une série de gens comme ça qui sont confrontés dans leur quotidien à des réalités différentes. Mais est-ce qu'on pourrait estimer, Sylvie, que ce film peut permettre d'avoir une approche un peu moins stéréotypée de la société iranienne ou pas?
Ah bah oui, ça j'en suis absolument convaincue, même si encore une fois il y a tous les mais derrière et que c'est vraiment il s'agit et d'ailleurs elle est pas du tout idéalisée la société iranienne, hein, dans le film, mais au moins on voit à quel point il y a des contradictions dans cette société, que rien n'est figé, que les choses avancent, parfois dans un sens, parfois dans l'autre, mais que, enfin, je dirais comme chez nous, quoi. Simplement, l'histoire n'est pas la même, donc ça, les chaos, les soubresauts ne se font pas de la même, forcément de la même façon.
Et moi, Sylvie, je voudrais savoir, est-ce que ce film a été programmé en Iran ?
Alors, ce film a été programmé en Iran, mais me semble-t-il, hein, j'en suis pas tout à fait sûre. Je sais qu'il a eu beaucoup de soucis pour sortir d'Iran une fois qu'il l'a tourné, mais il me semble quand même j'en mettrai pas ma main au feu, qu'on a pu le voir en Iran. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que ce film a reçu des prix, et notamment, justement, je parlais du cinéma du réel, des documentaires, il a reçu le prix du Festival du cinéma du réel en 2014.
Bien.
Je voudrais ajouter, parce que bon, comme ça, on peut se dire, oh là là, mais ça va être prise de tête et tout, mais pas du tout. Hein. Le film dure 1h30 et il n'est absolument pas ennuyeux, mais absolument pas, absolument pas. Franchement, c'est à voir. Hein. Ça donne à penser, ça donne à réfléchir, ça donne à discuter.
Bon. Alors, il y a aussi un aspect important. Je relève une phrase d'une interview qu'il avait réalisée. Il dit, dans ce film, l'image montre que je suis différent, c'est plus fort que les mots. Il y a cet aspect de l'image qui est un aspect fort.
Oui, alors déjà, bah parce que c'est déjà la configuration. Il est assis en face
dans un
de
lieu, oui.
Voilà, donc il y a les quatre, puisqu'ils sont quatre, et puis il y a lui en face. Donc bon, et puis physiquement, il est différent de trois, parce qu'il y en a trois qui portent un turban, mais il y en a un non qui n'en a pas. Donc on peut dire celui-là, il est pareil. Non, c'est vraiment la configuration du cinéma tel qu'il l'a fait, c'est-à-dire de mettre les quatre devant lui. Je sais pas, je pense que c'est un choix cinématographique, voilà. Aussi, hein, qui montre, voilà, on est de part et d'autre. Alors, ils sont de part et d'autre, ils sont sur un tapis, ils sont de part et d'autre d'une immense feuille sur laquelle ils peuvent écrire, dessiner, etc., montrer les morceaux du vivre ensemble et tout. Enfin, non, c'est vraiment très...
Et le film est en paix. Sous-titré en français ou
oui,
en français?
Oui, non, non, bah non, non, lui, il est vraiment franco-iranien. Maintenant, il vit en France. Il est français, il a la nationalité française. Bon, c'est un cinéaste français et c'est un cinéaste iranien. C'est en persan et c'est sous-titré en français. Et bon, c'est voilà, on ne pourrait pas imaginer ce film en français. Il faut la langue aussi. C'est une langue très douce, hein, le très très bon. Parfois, ça fait penser un peu au turc, mais.
Et est-ce que ce film est rythmé par un peu de musique, par rapport à d'autres aspects qui sont que ce huis clos, si je peux m'exprimer ainsi?
Il y a les moments de la vie quotidienne. C'est rythmé par les repas. Le repas, c'est très, très important. C'est un moment de convivialité. Donc, c'est un moment important pour le vivre ensemble, justement. Il y a de la musique à un moment donné, mais parce qu'on parle de la musique, de qu'est-ce que c'est que la musique, etc. Alors là, il y a des choses, moi, qui m'échappent. Je ne sais pas quelles sont les différences entre le chiisme et le sunnisme par rapport à tout ça. Je crois que déjà dans les représentations des personnes, c'est possible dans la religion, enfin dans la branche chiite, enfin pour si on retourne aux fondamentaux, hein. Mais bon, ça, je pense qu'évidemment Sabrina Mervin sera bien mieux à même de nous expliquer tout ça. Donc c'est rythmé comme ça, c'est rythmé à un moment donné. Il y a alors on voit aussi des petites scènes qui se passent à l'extérieur, hein. On n'est pas tout le temps dans la pièce. Ils sont souvent aussi assis dehors, ne serait-ce que pour les repas. Il y a les femmes, il y a une femme qui apparaît à un moment donné, les enfants aussi qui sont là.
Ce film a été réalisé au moment où on a eu le nouveau.
Non, juste avant.
Juste avant.
Avant. Ah, donc c'était encore, donc c'était juste avant. Donc ça, c'est important aussi, parce qu'effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se sont adoucies, mais enfin, il y a toujours des tentatives de revenir en arrière.
Ouais, parce
que
moi, j'avais lu à propos du réalisateur qu'à l'issue de ce film, il avait eu des problèmes avec la police, on lui avait pris son passeport.
Voilà, il est resté.
Puis on lui avait bien conseillé de ne pas revenir, en fait.
Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé, ce que je disais tout à l'heure. Il est resté 3 mois enfermé, on va dire, en Iran, sans pouvoir
repartir. Et avec le nouveau gouvernement, ça c'est...
C'est pour ça que je...
Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si maintenant il va pouvoir repartir.
Au cours du débat, avec notamment Sabrina Mervin, peut-être qu'on aura peut-être d'autres aspects. Oui. En tout cas, c'est ce film, donc, l'Iranien, hein, qui est projeté du côté de l'Alticiné lundi.
Lundi soir, 20h30.
En collaboration
on aura le
avec,
plaisir de recevoir Sylvie Brévent et les amis du monde diplomatique.
Voilà, moi je passerai sur tous les plats ce soir-là à Sabrina Mervin, dont je pense qu'il sera vraiment très 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 intéressant.
Mais je pense que ça peut être intéressant d'abord pour certains de découvrir autre que parfois à travers les stéréotypes qu'on a ou le peu d'images qu'on peut avoir parfois de ce pays. Et puis ça peut-être aussi comme on disait en ouverture. Dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, dans le monde et en France, après les attentats de janvier, peut-être que ça peut aussi permettre de...
Bon, alors, la question aussi qui est posée, c'est avec qui on peut dialoguer, jusqu'où on peut aller avec dialoguer. Moi, je ne peux pas m'imaginer tenir ce genre de dialogue avec des nazis antisémites, par exemple. Ça, c'est pas possible. Mais donc toute la question, c'est de. Alors évidemment, je ne vais pas du tout comparer les religieux à eux. C'est pour ça. Lui, il les considère comme ses adversaires. Mais donc c'est effectivement tout à fait possible. Ça, je m'imagine très bien discuter.
Mais il y a une vision quand même à travers ce film, ce documentaire, une vision quand même optimiste, au bout du bout, dans la relation à l'autre.
Quand même, ils ont fait des pas. Ça c'est sûr, hein. Mais on se demande sur la durée qu'est-ce que ça donnerait, quoi. Voilà.
Oui, mais ce qui est positif, c'est qu'au moins ils se sont réunis tous les quatre.
Oui.
Alors qu'il n'y avait aucune chance qu'ils se réunissent, probablement.
Oui, tous les cinq. Hein. Oui, il y a le quatre.
Donc ça me semble déjà un événement majeur.
On se dit qu'il faudrait pouvoir faire ça tout le temps, c'est-à-dire discuter.
Imaginez un Mollah qui passe dans un documentaire, c'est quand même pas fréquent. Hein. Donc déjà rien que pour ça, on pourrait considérer que c'est une prouesse.
Mais les Mollahs en question, ils sont ultra connectés. Hein. Ils ont tous leur smartphone, leur machin, qui regardent sans arrêt, leur tablette, leur bidule. Non, c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir.
Bon, en tout cas, ça peut être, ça peut participer à une compréhension un peu plus importante de ce qu'est aujourd'hui la réalité de cette société iranienne.
Oui. Et en écho. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'est vraiment. D'ailleurs, il l'a dit aussi hein, dans un entretien, et il le dit au départ du film. C'est comment est-ce qu'on fait quand on est sur des positions tellement différentes, sur des visions tellement différentes? Comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble?
Bon, ben voilà, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci Sylvie d'être passée, nous voir.
On se retrouve donc lundi soir, 20h30, à l'Alticiné, avec le concours des Amis du Monde Diplomatique.
Alors justement, Dominique, avant qu'on se quitte, notre petit quiz musical.
Oui, bien sûr, mon cher William. Voilà. Sir William. Allez, mais figurez-vous, avant ça, j'ai encore une annonce à passer.
Allez-y.
C'est de dire que la semaine prochaine, on a un très joli film qui sera à l'affiche des Cramés de la Bonne Nuit à partir de jeudi.
Sans couper Dominique, mais on a prévu que toute la fin février et tout le mois de mars, il y aura de la pluie, donc allez-y. Allez-y.
Alors, ça s'appelle Mon ami Victoria, c'est un film français de Jean-Paul Sivérac. C'est un très très joli film avec Nadia Moussa, Catherine Mouchet, Pascal Grégorini, Guslagui, Malanda. Très beau film. Victoria est une jeune fille noire de milieu modeste, n'a jamais oublié la nuit passée dans une famille bourgeoise à Paris chez le petit Thomas. Et je vous dirai pas la suite parce qu'on en parlera beaucoup plus la semaine prochaine. Je peux vous dire que c'est une belle romance, c'est une jolie histoire, et puis c'est deux mondes qui se rencontrent, qui se croisent, qui se comprennent pas si bien que ça, parce que chacun veut faire bien, ils font plutôt pas très bien. Voilà, ça s'appelle Mon ami Victoria, c'est la semaine prochaine à partir de jeudi à l'Alticiné. Je vous souhaite une belle semaine à tous, hein, et puis vive le cinéma.
Vive le cinéma, en tout cas merci Sylvie, merci Dominique. Mon petit quiz, alors c'est pas la version originale, c'est une version Big Bang, celle de Claude Bouling, mais je pense que vous allez reconnaître très rapidement.
Il y a du Alain Delon et du Jean-Paul Belmondo.
Entre autres.
Hein, c'est ça, c'est Borsalino. Hein, c'est
voilà.
Ça.
Décidément, j'arrive jamais, mais j'y arriverai. Merci Dominique, à la semaine prochaine. Merci.